Bonjour, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. C'est la rentrée scolaire. Et si on essayait modestement de dresser un portrait robot de nos enfants? Les enfants des années 2000-2010 sont-ils si différents de ceux des précédentes décennies? Quelle place sont-ils dans notre société qui a plutôt tendance à les valoriser, à leur donner davantage la parole, à leur dispenser une éducation bienveillante, moins autoritaire? Quelles sont leurs particularités, leurs forces et leurs faiblesses? Portrait d'une génération née avec Internet, les tablettes, les smartphones, dans un monde terrorisé par les attentats, les dérèglements climatiques et le chômage de masse. Quel type de société annoncent ces enfants du nouveau millénaire? Et vous, quel regard portez-vous sur ces enfants nés depuis une douzaine d'années? Regard plutôt bienveillant ou plutôt critique? Question, témoignage, 01 45 24 7000. Pierre et Anouk vous attendent au standard, par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Bonjour Julia Foyce.
Bonjour Ali, bonjour tout le monde.
Passons genre, c'est votre chronique tous les mercredis en fin d'émission. Bande annonce de votre chronique.
De la représentation du sexe féminin dans les manuels scolaires.
Eh ben ça donne envie. À tout à l'heure.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Pour nous aider à dresser un portrait robot pas trop caricatural, je l'espère, des enfants de notre époque, une première auditrice. Bonjour Annick.
Bonjour.
Bonjour, fidèle auditrice.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Fidèle auditrice de l'émission, vous habitez dans le Poitou et vous êtes grand-mère de 4 petits-enfants, c'est ça?
Oui, c'est ça, 2 garçons et 2 filles.
Alors quel regard portez-vous sur cette génération que vous n'avez pas forcément élevée comme vos enfants? Qu'est-ce qui vous frappe?
Alors ce qui me frappe, c'est que les enfants, on les laisse beaucoup s'exprimer et beaucoup, selon l'éducation, on les laisse beaucoup s'exprimer et on leur, on les contraint pas trop. Mmh. Certaines fois.
Ça veut dire quoi ça, Annick?
Alors, ça veut dire que selon l'éducation des parents, il y a certains parents qui sont bienveillants, mais quand même assez stricts pour leur apprendre certaines bases. Et d'autres, parce que moi j'ai ces 2 cas de figure, si vous voulez, et d'autres qui parlent beaucoup trop avec les enfants. Et que c'est presque les enfants qui décident ce qu'ils doivent faire.
Quoi. Est-ce que vos petits-enfants bénéficient d'une éducation plus bienveillante et moins autoritaire que celle que vous avez peut-être dispensée à vos propres enfants il y a une trentaine d'années?
Ben, ça dépend. Ça dépend des parents, je pense, encore maintenant. Mmh. Hein. Je pense plus de bienveillance, certainement. Moins d'autorité, ben certains parents oui, d'autres non, maintiennent quand même une certaine autorité.
Alors Annick, ce que vous aimez dans cette génération, c'est peut-être leur ouverture au monde et leur sensibilité aux questions liées à l'environnement, c'est ce qui vous frappe notamment dans la génération de vos petits-enfants?
Oui, hein. Ils sont très très curieux de beaucoup de choses parce que on parle peut-être plus avec eux aussi, ils entendent plus de choses, et ça les, comme ils sont curieux de nature, ça les rend encore plus curieux. Et si on s'intéresse à certaines choses comme à l'environnement, ils vont forcément s'y intéresser aussi.
Quel âge, quel est l'écart d'âge de vos petits-enfants? Ils ont quel âge, vos petits-enfants?
Alors,
entre le plus petit et le plus grand, c'est quoi les cas?
Il y en a un qui est né en 2008, l'autre en 2010, les garçons, et les filles 2012 et 2013.
Et tous obsédés par les écrans ou pas?
Non, pas forcément. Ah. Pas forcément. Un petit peu par la télé, mais pas outre mesure. Hein. Moi, par rapport à ce que je vis, quoi.
Merci beaucoup, Annick, de nous avoir appelé du Poitou. Premier tour de table, Gonelle Boulet, bonjour, vous êtes rédactrice en chef du bimensuel Astrapi, sur ce que vient de nous dire Annick.
Oui, ce qui me frappe, c'est le mot qui me frappe, c'est la curiosité, qui est vraiment quelque chose qui est très très commun à tous les enfants de cette tranche d'âge 7-11 ans, par exemple le primaire, c'est un point de primaire, qui est très lié à, en psychanalyse, ce qu'on appelle l'âge de latence, la période de latence, qui est très importante, qui est effectivement, on est après toutes les tempêtes intérieures de la petite enfance, où il se passe beaucoup de choses, les complexes d'Oedipe et autres, on est avant les énormes transformations de l'adolescence, et donc on a cette plage un petit peu de l'enfance qui est apaisé et qui permet d'être justement disponible pour les apprentissages, la curiosité tous azimuts, etc. Qui est aussi un âge qui rend disponible pour un rapport assez serein à l'adulte. Sauf problème, mais sinon il y a un rapport serein à l'adulte. L'enfant est demandeur d'échanger avec l'adulte, demandeur de recevoir, d'apprendre ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frappant, assez commun à toute cette tranche d'âge.
Bonjour Marc Bauger.
Bonjour.
Rédacteur en chef du magazine pour enfants, enfin pour les parents.
Pour parents.
Et qui s'adresse.
Qui parle des enfants.
Qui parle des enfants. Do Little, hors série du magazine Society. Si vous deviez dresser un portrait robot d'un enfant français de notre époque à un Coréen du Nord, qu'est-ce que vous lui diriez?
Question baroque.
Merci.
Non, je le définirais par ses différences par rapport à l'enfant nord-coréen, peut-être. Alors, l'enfant français, j'imagine que dans son imaginaire, il y a la possibilité de voyager, d'aller peut-être travailler à l'étranger. Il y a aussi le fait que le dimanche, il n'est pas obligé de défiler aux ordres devant les dignitaires nord-coréens. J'imagine que c'est ça les différences principales. Enfin, comment définir l'enfant français à un nord-coréen? Après, voilà, il y a, à mon avis, c'est plus agréable d'être un enfant en France en 2017 qu'en Corée du Nord. Après, voilà, il y a les défauts de la société occidentale. C'est très tôt une cible marketing. Très tôt, il est sans doute défini aussi par une forme de pression consumériste, par les réseaux sociaux, etc. Et puis, pour en revenir un peu à ce que disait l'auditrice, est-ce que les enfants ont plus de liberté aujourd'hui qu'il y a 30 ans? J'ai l'impression c'est un peu paradoxal, il y a une liberté intellectuelle supérieure. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut parler politique à 6 ans avec moi, avec ma petite fille. Mon grand de 11 ans est quasi un expert, il pourrait être éditorialiste au Figaro ou à Libé.
Mais faut choisir, hein, Libé, oui, ou Figaro.
Plutôt Libé pour le moment, mais il vieillira et deviendra peut-être de droite. En tout cas, et donc il y a une liberté intellectuelle, mais en même temps il y a il y a moins de liberté physique, c'est-à-dire qu'on les laisse beaucoup moins se déplacer seuls dans la ville ou même à la campagne, on les laisse moins faire des choses par eux-mêmes, on est plus vigilant par rapport à la possibilité d'un accident, d'une mauvaise rencontre, etc. Donc voilà, c'est l'époque. Il y a plus de liberté intellectuelle et moins de liberté physique.
Bonjour Martine Cour.
Bonjour.
Sociologue et auteur de Sociologie des enfants. Sociologie des enfants et non de l'enfance ou de l'enfant.
Oui, c'était un choix d'intituler cet ouvrage comme ça pour insister sur le fait que effectivement, ça paraît difficile de dresser un portrait robot de l'enfant au singulier l'enfant français ou l'enfant occidental aujourd'hui, dans la mesure où il y a en fait les enfants d'aujourd'hui grandissent dans une société et notre société est une société stratifiée marquée par un très grand nombre d'inégalités et les enfants n'échappent pas à ces inégalités. De classe sociale qui se traduisent dans la vie quotidienne par des inégalités dans les conditions matérielles d'existence, dans les conditions de logement, dans l'école du coup à laquelle on va avoir accès en fonction du lieu de résidence des parents, qui se traduit par des inégalités d'accès à la culture, qui se traduit par des inégalités d'accès aux loisirs et qui vont se traduire au final par des inégalités scolaires qui sont extrêmement précoces. Donc les enfants grandissent effectivement dans la même société, mais ils ne grandissent pas du tout dans les mêmes conditions sociales. Et de ce point de vue-là, donc c'est très difficile, en tout cas sociologiquement, de parler de l'enfant au singulier.
Et vous, aidez-nous à esquisser un portrait pas trop caricatural des enfants de la décennie 2010, 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com, sans oublier notre page Facebook. C'est mercredi, les enfants ont également le droit d'appeler ce matin s'ils n'ont pas cours.
Use the arms of the food of love. Sounds to really make you rub and scrub. Sang badang 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 badang. I said,
pass the dutchie pan the left hand side. Pass the dutchie pan the left hand side. It a go bun.
Give me the music, make me jump and
fun. It a go done.
Give me the music, make me jump.
chip on the left hand side.
I say,
pass the dough chip on the left hand side. It a go bun.
Give me the music, make me jump and frown.
It a go done.
Give me the music, make me looking at the down. Bang 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 bang.
So I stopped to find out what was going on.
How does it feel when you got no food?
Cause the spirit of Jah, you know he leads you
how
on.
How does it feel when you got no food?
There was a ring of dreads and the session was there in swing.
How does it feel when you got no food?
And you could feel the chill as I seen and heard them sing.
How does it feel when you got no food?
Pass the dough chip on the left hand side.
I said,
pass the dough chip on the left hand side. It a go bun.
Give me the music, make me jump and pump.
It a go done.
Give me the music, make me jump and pump.
Chip on the left hand side.
I say,
pass the dough chip on the left hand side. It a go bun.
Give me the music, make me jump and pump.
It a go done.
Give me the music, make me rockin' at the dance. You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo. And so me know we a go play it on the disco. And so me say we a go hear it on the stereo. Stereo.
Go. Pass the dough chip on the left hand side.
I say,
pass the dough chip on the left hand side. It a go bun.
Give me the music, make me jump and pump.
It a go done.
Give me the music, make me rockin' at the dance.
On the left hand side.
I say.
On the left hand side.
I say.
On the left hand side. On the left hand side.
Musical Youth interprété Pass the Dutch.
France Inter.
Les garçons, venez goûter. J'ai fait du riz au lait.
Grand bien vous fasse.
Alors à table.
Ali Rébéi.
10h18 et en cette rentrée des classes, on essaie de dresser un portrait robot pas trop caricatural des enfants des années 2000-2010 avec une demande express de Julia Foyce qui nous a demandé de pas trop la déranger pendant 7 heures parce qu'elle est en train de lire Astrapi.
Ouais. Donc parlez pas trop fort s'il vous plaît parce que j'en suis à Marion Duval et personnellement c'est ma petite Madeleine et Marion Duval est à New York et ça me fascine, ça me passionne. Donc chut.
Je leur laisse le choix. Je fais que ça. Elles choisissent ce qu'elles veulent manger, choisissent les programmes de la télé, elles choisissent tout. Là, c'est même elles qui ont choisi la couleur de ma voiture.
Ah oui, mais alors là, c'est très grave. On n'est pas en âge de choisir quand on a 9 ou 10 ans. Prendre la porte de droite ou celle de gauche est un dilemme qui demande une vraie maturité. Si vous demandez à Rachel et Salomé leur avis sur tout, ne soyez pas étonnés qu'elles vous le donnent et qu'elles finissent par se mêler des choses qui ne les regardent absolument pas.
Ah ben ça, pour se mêler, elles se mêlent. Hein.
Alors permettez que je vous donne un conseil tout simple avant de vous laisser partir. Quand vous voulez que vos enfants aillent prendre un bain, ne leur dites pas « vous voulez prendre un bain ?» Mais « aller prendre un bain, c'est l'heure. » Parce que vous savez quand vous devez le faire. Pas vos filles.
Un extrait du film « Demander la permission aux enfants » en 2007. Martine Cour, je rappelle que vous êtes sociologue. Alors ce qui frappe depuis le début du XXe siècle, c'est que les relations entre adultes et enfants sont devenues égalitaires. Et dans les années 2000-2010, ces relations sont devenues plus égalitaires que jamais. À table, il est naturel de demander son avis aux enfants. Il y a un demi-siècle, c'était plutôt « mange ta soupe, tiens-toi droit et surtout tais-toi ».
Oui, alors c'est vrai que incontestablement les normes en matière d'éducation des enfants ont beaucoup évolué effectivement surtout depuis 50 ans et ont évolué dans ce sens-là de beaucoup plus laisser de place à l'expression des enfants. Cela étant, c'est pas quelque chose qui est non plus universel. C'est quelque chose qui la manière de réguler les conduites des enfants reste assez distincte en fonction des milieux sociaux. Alors, il y a un travail qui a été fait aux États-Unis que je cite dans le livre qui montre bien ça sur des parents new-yorkais qui habitent pour les uns à Manhattan donc qui sont plutôt de milieux favorisés et d'autres plutôt de milieux plus populaires qui habitent dans le Queens. Et les premiers, effectivement, c'est une enquête qui date des années 1990, les premiers ont effectivement tendance à penser que c'est bien de traiter les enfants à égalité avec les adultes. Je le dis très mal, mais c'est vraiment ça, c'est une conception des relations de pouvoir avec les enfants qui est mise en évidence ici. Donc c'est bien de traiter les enfants à égalité avec leurs parents, et ça va se traduire exactement comme c'était dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre ici, par une tendance à beaucoup demander l'avis des enfants, parents, leur solliciter leur consentement pour faire les choses.
Gwenaëlle Boulet, rédactrice en chef d'Astrapi, on est passé de tais-toi à sois-toi-même.
Oui.
C'est ce qui caractérise peut-être les enfants des années 2010, en tout cas dans certains milieux sociaux.
Dans certains milieux sociaux. Une fois qu'on aura dit ça, voilà, on passe à la suite, mais dans certains milieux sociaux. Et au sein de ces milieux sociaux, je dirais que c'est pas si homogène que ça. Et je dirais que vous prenez un week-end avec plein d'amis et plein d'enfants, et c'est explosif. C'est-à-dire que entre ceux qui, effectivement, pensent qu'il faut un certain nombre de règles, tout en ayant un dialogue avec leurs enfants, etc., mais qu'effectivement, c'est pas, est-ce que tu veux prendre ton bain, est-ce que tu veux les 26 parfums de glace, etc., mais qui pensent que s'il faut prendre son bain, on donne la directive, donc il y a une catégorie de parents. Il y a ceux, effectivement, qui discutent de tout et tout le temps avec leurs enfants. Ça peut vite être assez explosif, semblant. Voilà. Donc, au sein même des milieux sociaux, je dirais que c'est pas encore si évident. Et je dirais qu'il y a deux choses. Une chose positive dans tout ça, la volonté de mieux comprendre son enfant, mieux communiquer. Et peut-être, moi je vois en transparence aussi, une perte de confiance dans les parents eux-mêmes, dans leur capacité à élever leurs enfants.
Alors, il existe depuis 1989 une Convention internationale des droits de l'enfant qui donne le droit aux enfants d'exprimer librement leurs opinions sur les questions qui les intéressent, droit également à une vie privée et à la liberté d'expression. Et en 2002, une loi sur l'autorité parentale affirme que les enfants doivent associer leurs enfants aux décisions qui les concernent, et ça figure même dans le Code civil. Marc Baugé.
Ouais, c'est pour en revenir à ce que vous disiez sur les week-ends, on constate que les enfants des autres sont toujours insupportables.
Ça, oui.
Ouais, c'est une règle immuable. Dans le cas des divorces, même pour les jeunes enfants, dans les procédures récentes, on demande aux enfants de signer un papier, même quand ils sont en bas âge. Une petite fille de 5 ans peut être amenée à signer un papier qui acte le fait qu'elle a conscience de ce qui se passe et que ses parents divorcent. Donc effectivement, il y a une prise de conscience, parfois peut-être, enfin de responsabilité, parfois jusqu'à l'excès. Après, cette volonté de donner la parole aux enfants plus que dans le passé, elle reflète sans doute une conscience plus large et très dans l'époque de bien-être, enfin de recherche de bien-être, mais pour les adultes, le sujet est le même. Et effectivement, j'ai l'impression qu'on a embarqué nos enfants dans cette histoire de bien-être et que c'est plutôt une bonne chose. Après, parfois les bonnes intentions donnent des mauvaises choses et effectivement, on laisse parfois un peu trop la parole aux enfants sur des sujets pour lesquels ils n'ont pas tous les éléments, mais ça part d'un bon sentiment, j'ai l'impression.
Bonjour Anne.
Bonjour Ali.
Bienvenue dans l'émission, vous appelez d'où ?
De Montreguen, dans la Vienne.
Alors, vous avez deux enfants de 12 et 9 ans.
Oui, c'est ça.
Alors, aidez-nous à dresser un portrait robot des enfants des années 2010, dans la France de 2017.
Oui, alors moi j'ai deux enfants, alors chez nous il n'y a pas de console, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de téléphone portable. Oula. Pour les enfants, on estime qu'ils sont capables de faire autre chose que tout ça, mais alors par contre dès qu'on leur demande de se poser, de ne rien faire, eh ben ils ne savent pas le faire justement, et je pense que ça vient pas que de chez nous, je pense qu'à l'école c'est pareil, on leur demande beaucoup, beaucoup de choses, on leur demande de grandir trop vite aussi à mon avis. Et je pense que l'enfant, il est perturbé dans tout ça, quoi, à mon avis.
Anne, Gwenaëlle Boulet d'Astrapi acquiesce.
Ah ouais, j'acquiesce. La question de l'ennui, la question du temps est extrêmement importante. Si on devait faire un portrait robot, moi je dirais qu'aujourd'hui, les enfants, ce dont ils ont besoin et qu'ils expriment, je crois que c'était 2011-2012, une étude de l'UNICEF qui leur demandait qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Il y avait trois choses qui sortaient, le temps, avec leur famille en particulier, les amitiés et le dehors, ce qu'ils appellent, dont on a parlé tout à l'heure un tout petit peu, avec la réduction du périmètre d'exploration. Voilà. Donc le temps, ils en manquent beaucoup. Énormément d'enfants sont surchargés dans certains milieux sociaux, encore une fois, mais quand même surchargés. On est dans une vision de la société où les enfants ont plein de potentialités. Il faut tout explorer, tout exploiter, aller au bout des choses. Donc, ils font le théâtre, la musique, le sport, en compétition, etc., etc. Et on a beaucoup, nous, dans notre courrier, on reçoit à peu près 300 lettres par mois d'enfants à Astrapi. Énormément d'enfants qui se plaignent, j'ai pas le temps, je suis fatiguée. Donc, première chose, le temps. Et donc, quand on les a surchargés et qu'on a été habitué à ça depuis tout petit, c'est très, très dur de se retrouver face au vide et à l'ennui et donc retrouver ses ressources propres.
Anne dit une chose très importante, on demande aux enfants de grandir trop vite, Marc Baugé.
Oui, c'est vrai qu'on leur inculte assez tôt, je trouve, une espèce d'esprit de la win. De la gagne que je trouve assez insupportable. mais ça commence très tôt et ça commence de façon, c'est encore une fois c'est une bonne intention. C'est-à-dire que moi, je suis toujours un peu agacé ou étonné ou sceptique quand par exemple on s'étonne, on en fait des caisses sur la beauté d'un bébé. En fait, ça part vraiment d'un bon sentiment.
Je suis d'accord. Julia
Foyce. En fait, je trouve que quand on commence à caractériser un bébé, à vraiment en faire des tonnes sur le fait qu'il soit beau, mignon, on commence un peu en creux à dire qu'il va évoluer, il va être moins beau après quand on en fera moins des caisses. Moi, je trouve qu'un bébé, il est ce qu'il est, et il peut être beau, moche. Mais ça, c'est encore une fois quelque chose qui part d'un bon sentiment, d'une bonne intention. Mais je trouve qu'on ne devrait pas comme ça, complimenter, enfin classer, en tout cas commencer à inscrire les enfants dans une logique de beau, pas beau, intelligent, pas intelligent. Il a marché à 8 mois, ah, le mien à 7 mois, ou à 11 mois. Enfin, une espèce de concurrence très vite, assez tôt, et il faut réussir. Et ça, c'est un truc d'adulte qu'on a fait passer aux enfants.
Anne, est-ce que vos enfants bénéficient d'une éducation moins autoritaire, plus bienveillante que celle que vous avez peut-être eue dans votre enfance? Sans doute.
Alors oui, moins autoritaire, certes, ouais. Mais alors nous, par contre, ce qu'on exige entre guillemets, parce que c'est pas exigé, mais c'est une vie de famille, c'est les repas ensemble, c'est des activités ensemble, c'est des choses comme ça, quoi. Enfin, voilà, on leur demande pas grand chose, mais c'est des minimums, quoi. Comme moi, je pense que faire manger les enfants à part et les adultes à part tous les jours, enfin, pour moi, c'est inconcevable.
Martine Cour, dans nos conversations au bureau, on a quand même constaté que les enfants des années 2010 étaient sans doute beaucoup moins soumis à l'autorité que nous ne l'étions dans les années 60-70. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Sur le rapport à l'autorité?
Oui, tout à fait. C'est il y a assurément eu des changements de ce point de vue-là qui sont liés à un changement du statut de l'enfant dans nos sociétés, qui sont liés au fait que la psychanalyse et la psychologie pour enfants est passée par là et s'est diffusée beaucoup auprès des parents. Donc il y a eu des transformations indéniables sur ce point.
Bonnel Boulet, sur l'éducation plus bienveillante et moins autoritaire que celle que nous avons peut-être bénéficié.
Oui, mais je reste sur mon idée que c'est très très disparate et que c'est pas. Alors il y a d'autres choses qui viennent croiser la question sociologique. C'est, je dirais, ça dépend tellement de la structure familiale, de l'ambiance familiale, des caractères. Je veux dire, il suffit d'avoir un père autoritaire, une mère autoritaire, et juste l'éducation n'est pas la même qu'à côté.
Martine Cour.
Oui, juste pour compléter quelque chose, un mot qu'on emploie tous depuis le début de l'émission. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des différences entre les milieux sociaux dans les manières d'envisager l'autorité et de l'exercer sur les enfants. Il y a des milieux sociaux dans lesquels les parents exercent une autorité plus autoritaire, on peut dire, qui fait moins appel à l'expression des enfants, etc. Et pour autant, ça me paraît important de dire que ces parents-là ne sont pas moins bienveillants avec leurs enfants. C'est-à-dire que assimiler le fait de laisser la parole aux enfants et le fait d'être bienveillant, pour moi, c'est deux choses distinctes. On peut avoir un mode d'exercice de l'autorité autoritaire et néanmoins être tout à fait bienveillant avec ses enfants.
Gonelle Boulet.
Tout à fait d'accord. Et ce que je veux dire, si on vient à l'idée du portrait robot quand même, moi ce qui me frappe vraiment avec nos lecteurs et avec tous les enfants qu'on voit en école, etc., c'est vraiment l'importance de la famille. Ça peut paraître, mais dans l'enfant, dans l'univers de l'enfant, dans le la famille reste son premier lieu de vie. Et donc, ça c'est vraiment, les structures sont très diverses aujourd'hui. On a des familles classiques, monoparentales, recomposées, homoparentales. Quelle que soit la structure familiale, ce que l'enfant va vivre dans sa structure familiale, c'est-à-dire la réassurance, l'assurance sentimentale, des émotions, ça c'est le cœur de sa vie. Donc ça va croiser plein d'autres analyses, mais c'est vraiment le cœur de sa vie.
Julia Foyce.
Oui, non, je me posais la question, quand vous dites, dans certains milieux sociaux, en fait, vous parlez desquels?
Oui. Martine Cour.
Non, c'était le...
Non, parce qu'on fait le distinguo entre, j'imagine qu'on pense à la sociologie des auditeurs de France Inter, etc., par opposition à d'autres milieux sociaux, mais est-ce que c'est les milieux sociaux plus défavorisés ou est-ce que c'est au contraire des milieux sociaux plus favorisés où on tient un certain nombre de règles, etc. Vraiment, c'est question très naïve, mais je n'ai pas la réponse, donc je vous la pose.
Alors, je suis obligée de vous répondre de manière trop grossière parce qu'on manque justement d'enquêtes vraiment fines pour répondre ouais. très, très précisément à votre question. Ce que l'on peut montrer, c'est globalement un clivage entre classe moyenne, moyenne supérieure, donc peut-être ce que vous appelez les auditeurs de France Inter, je ne sais pas, versus classe populaire. faire. Mais à l'intérieur de ces deux groupes-là, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut faire des distinctions que j'ai pas le temps de faire ici, et puis qu'il faudrait aussi des travaux de recherche plus fins pour les faire. Donc voilà, globalement, c'est ça pour répondre à votre question. Mais sachant que, voilà, il faut affiner, et que parler de classe moyenne, de classe populaire, c'est un grain trop épais.
Merci Anne de nous avoir appelé. Bienvenue Charline.
Oui, bonjour.
Vous appelez d'où, Charline ?
De Lille.
Alors, aidez-nous à adresser ce portrait robot des enfants des années 2010.
Ouais. Voilà, donc moi je suis directrice d'école. J'accueille des élèves de 7 à 11 ans. Et justement, j'aurais voulu revenir sur cette idée de bienveillance. Mm-hmm. Donc, dans notre école, on essaye d'impliquer au maximum les élèves dans les décisions de l'école. Donc, on profite des élections de parents d'élèves pour faire des élections de délégués. Et donc, il y a des réunions régulières. Les enfants peuvent faire des propositions. Et au départ, un petit peu à tout va, c'est-à-dire, par exemple, des frites tous les jours à la cantine. Voilà. Mmh. Donc, ça, on leur fait remarquer que ça n'est juste pas possible. Petit à petit, dans le courant de l'année, ça se régule. On établit les règles ensemble. Donc, il y a également des médiateurs en cours de récréation qui essayent de régler les petits problèmes. Et on se rend compte que ces enfants ont envie de faire partie prenante des règles de l'école.
D'être traités d'égal à égal.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pas vraiment égal à égal, parce que j'écoutais les auditeurs précédemment, on peut pas donner la parole un enfant ne peut pas tout décider, bien sûr, mais le fait de lui donner justement un espace de parole et de l'impliquer dans la vie de l'école, ça apaise énormément les tensions dans la classe et dans les cours de récréation notamment.
Charline, vous êtes directrice d'école depuis combien de temps ou également institutrice, depuis combien de temps êtes-vous...
Oula.
Non, c'est juste pour établir un comparatif entre des enfants que vous avez peut-être vus il y a une vingtaine d'années et ceux d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous frappe le plus ?
C'est ma 37e année. Mmh. Pas en tant que directrice. En tant que directrice, ça fait une vingtaine d'années. Et effectivement, alors, je dirais que moi, ce qui a changé le plus dans la relation, c'est pas tant les élèves, les enfants, c'est plutôt la relation aux parents. Mmh. Mais de la même façon que les enfants, on les implique dans la vie de l'école, je crois qu'il faut aussi impliquer les parents, leur donner confiance en l'école. Et pour ça, il faut les faire entrer. Bon, là, actuellement, avec les questions de sécurité, c'est compliqué, mais voilà, essayons au maximum aussi qu'ils puissent donner leur avis et être partie prenante dans la vie de l'école.
À mettre en place. Alors, l'éducation bienveillante dont vous parliez, la négociation, la parole donnée aux enfants, c'est formidable. Mais certains parents rêvent parfois de se lâcher, comme cette monitrice de colo dans Nos Jours Heureux en 2006.
Écoute, on se mouille juste les genoux, et si ça te plaît pas, on sort, d'accord ?
Mais j'ai dit non, fiche-moi la paix à la fin !
Mais je te promets que tu vas adorer, hein ? T'as ma parole, d'accord ? Allez, viens me baigner pour me faire plaisir.
Lâche-moi !
Écoute, Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends ? Mais tu sais ce que t'es ? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Hein ? Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord ? Hein ? Un espèce de merde qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es. Connard. Connard. Connard.
On ne dit pas ça et on ne fait pas ça avec ses enfants. Ça, c'est Julia Foyce. Je la dénonce. Charline, certains, comme le grand pédiatre Aldo Nauri, estiment qu'on donne trop la parole, qu'il y a trop de négociations avec les enfants. Vous êtes d'accord avec ça ? On donne toujours trop la parole aux enfants ? On négocie toujours trop ?
Non, je trouve qu'on ne leur donne pas la parole. Il faut écouter les enfants, ils ont énormément de choses à dire et énormément de choses à nous apporter.
Gonelle Boulet d'Astrapi.
Oui, c'est marrant, j'ai l'impression de revoir les débats après post-Françoise Dolto. C'est-à-dire, vous savez, Françoise Dolto, tout à coup, on a dit oui, elle a tout laissé faire aux enfants, etc. Et là, dans l'éducation bienveillante actuelle, je trouve qu'il y a plein de choses extraordinaires sur vraiment la lecture des émotions, aider les enfants à comprendre ce qu'ils vivent et pour réussir à se réguler eux-mêmes. Je trouve ça, tout ça est vraiment formidable. On a fait un numéro, voilà, sur trop fortes les émotions pour les aider à décrypter ce qu'ils vivaient. Donc ça, tout ça, je trouve ça formidable. Et après, je pense qu'il y a plein de, plein de choses qu'on comprend pas bien dans l'éducation bienveillante. Ça veut pas dire tout négocier, ça veut pas dire tout discuter non plus. Et en revanche, je rebondis sur ce qu'a dit cette directrice Charline. D'école, Charline. Moi, je trouve en effet que les enfants n'ont pas du tout assez la parole dans les instances, dans les collectivités. Par exemple, qui a demandé l'avis des enfants sur le rythme scolaire, sur ce qu'ils vivaient, sur leur fameuse fatigue ou pas fatigue, sur la manière dont ils étaient occupés, dont ça les nourrissait, etc. Personne. Enfin, je veux dire, quasi personne. Donc, ils n'ont pas assez la parole, moi, je trouve, dans les villes. Je veux dire, on ne devrait plus construire un parc sans demander leur avis aux enfants. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'y faire? Peut-être qu'ils ont envie de rien avoir pour grimper, mais d'avoir de l'espace libre. Toutes ces instances officielles, ils sont quand même très peu présents.
Marc Bauger, rédacteur en chef de Doolittle, qui s'adresse aux parents.
Oui, non, moi, j'ai pu constater, mais vraiment... quasi pas quotidiennement, heureusement, mais en fait que l'enfant aujourd'hui, en tout cas les miens, n'accepte plus le c'est comme ça comme oui. comme une raison. En fait, c'est-à-dire que pas plus tard qu'hier, ma petite fille, je lui dis bah c'est comme ça.
Elle a quel âge?
Elle a 6 ans. Elle m'a dit, elle a essayé de comprendre. Je lui ai dit c'est compliqué. Enfin, la raison est compliquée. Elle m'a dit je peux comprendre le compliqué. Donc voilà. Donc il y a comme ça un espèce de effectivement de mais c'est vertueux. Enfin je pense que si on inculque un esprit de bienveillance dans le rapport qu'on a aux enfants, c'est aussi même inconsciemment pour essayer quand même de construire un monde plus bienveillant au-delà de nos simples enfants, c'est-à-dire que des enfants élevés dans la bienveillance, espérons que dans 20 ou 30 ans, ils auront un vote bienveillant, un comportement bienveillant. Enfin, je trouve ça plutôt intelligent.
Martine Cour.
Non, je suis d'accord avec ce que vous disiez, Gwenaëlle, sur le fait que peut-être qu'il y a différentes manières d'envisager le fait de donner la parole aux enfants. On peut leur donner la parole à titre individuel pour exprimer des choix de consommateurs, des préférences, etc. Et on peut aussi leur donner, c'est pas la même chose, leur donner la parole à des fins politiques pour s'exprimer collectivement sur des choses qui les concernent, à apprendre à argumenter, à débattre avec d'autres. Et c'est pas tout à fait le même type de parole qu'on donne aux enfants dans les deux cas.
Merci beaucoup, Charline, de nous avoir appelé. Et vous, aidez-nous ce matin à dresser un portrait robot des enfants des années 2010. Et si vous êtes enfant, en vertu d'une convention de 1989, vous avez également le droit de vous exprimer. Si vous n'avez pas cours ce mercredi matin, 01 45 5 24 7000. Futuro Pélo interprété Hans avec une programmation musicale signée Muriel Pérez.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce qu'il est chiant ce boss.
À mon avis, c'est un hyperactif. Il faut l'amener voir un psy.
Bah pourquoi ?
C'est pas normal d'être un snap comme ça tout le temps.
Sur France Inter.
10h41 et en cette rentrée des classes, on essaie de dresser un portrait robot pas trop caricatural des enfants des années 2010. Marc Baugé, dans les cours de récréation des années 2010, la mode, bien s'habiller, c'est plus important que jamais. Quand j'étais enfant dans les années 70-80, je mettais ce qu'on me donnait à mettre sans trop discuter.
J'ai l'impression qu'il y a eu un vrai abaissement de l'âge de la conscience. À la fois vestimentaire, mais aussi capillaire, sur l'attitude, sur le sentiment de propriétaire du bon téléphone au bon moment, de la bonne paire de baskets, arrive beaucoup plus tôt.
7-8 ans, Gonaïque Boulay.
Je pense qu'en primaire, c'est déjà existant.
Je pense que ça dépend beaucoup des lieux. En campagne, où moi ouais. je suis à Ivry, donc ville très mixte, où c'est très peu présent, ça arrive vers les grands du CM2 parce qu'ils vont apercevoir le collège, mais peut-être que dans d'autres, il y a d'autres quartiers
Je parle où c'est plus présent pour mon expérience, j'ai l'impression qu'effectivement plutôt c'est pareil, c'est toujours cette idée d'écouter les enfants, du coup ils ont des goûts affirmés plus tôt. Alors je veux pas, c'est un cliché, mais les réseaux sociaux, le fait qu'on ait une existence publique. C'est-à-dire via les réseaux sociaux, via les followers, Instagram, etc. Plutôt, une forme de contrainte et d'obligation au cool, quoi.
En tout cas, dans votre hors-série du magazine Society, Doolittle, les enfants sont très bien habillés, très bien coiffés, et ils sont très beaux.
Ouais, on essaye sans les déguiser.
Martine Cour, je rappelle que vous êtes sociologue, auteur de Sociologie des enfants. Être populaire, c'est important pour les enfants d'aujourd'hui. On peut faire des catégorisations. Il y a les populaires, ceux qui aspirent à être populaires, les peu populaires et les isolés. Les isolés, ce sont ceux qui ne sont pas choisis quand on fait des jeux, vous savez, ceux qui sont choisis en dernier.
Ceux qui iront loin dans la vie.
Et souvent, bien souvent. Quels sont les critères qui font la popularité des enfants des années 2010, Martine Cour ?
Alors effectivement, ce que vous décrivez ici, c'est des catégorisations, enfin des distinctions dans la cour de récréation qui ont été mises en évidence dans des travaux qui sont déjà un petit peu anciens, donc je pourrais pas vous répondre pour 2010, mais pour il y a une dizaine ou une quinzaine d'années.
Il y a des constantes en la matière, je crois.
Il y a sans doute des constantes. Les critères qui ont été mis en évidence dans les études sur cette question, c'est que les enfants populaires, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup d'amis, qui voient des amis en dehors de l'école, qui se téléphonent, qui effectivement sont toujours choisis pour dans les activités de groupe, etc., sont plutôt des enfants qui ont des parents qui ont un certain niveau de vie, qui ont un certain confort matériel, et donc des enfants qui vont avoir ce qui est associé à ça, effectivement des beaux vêtements, des objets, aujourd'hui ce serait sans nul doute des téléphones portables ou des choses comme ça, qui ont aussi des activités distinctives, comme faire de l'équitation, comme aller au ski régulièrement, comme partir dans des lieux de vacances distinctifs. Ces enfants-là, chez les filles comme chez les garçons, sont effectivement souvent plus populaires que les autres. Ensuite, il y a des différences en fonction du sexe. Chez les garçons, le fait d'être sportif, le fait d'avoir un physique athlétique, d'être bon en sport est un critère de popularité.
Et le fait d'être bon à l'école, est-ce que c'est un critère de popularité ? Enfin, ça dépend peut-être des milieux.
Alors, ça dépend du genre, en l'occurrence. Chez les filles, plutôt oui. Chez les garçons, c'est plus nuancé.
être trop bon, c'est peut-être...
être trop bon, c'est plutôt stigmatisant. Mais être très mauvais, c'est aussi stigmatisant, même chez les garçons. Donc voilà, chez les garçons, c'est plus complexe. Mais chez les filles, être bonne élève jusqu'à la fin de l'école primaire, c'est plutôt effectivement un critère de popularité.
Et les isolés, ceux qui sont souvent victimes de harcèlement scolaire.
Et les isolés ont plutôt des caractéristiques inverses. Donc en l'occurrence, c'est souvent des enfants de milieux très, très précarisés, avec les stigmates associés.
Gonaël Boulay, rédactrice en chef d'Astrapi.
Oui, nous, ce qui nous frappe déjà... C'est vrai que l'amitié, le lien avec les pères, c'est quelque chose qui est fondamental. La première chose, c'est la famille, la sphère. La deuxième sphère au-dessus, c'est vraiment l'école, le rapport aux copains, etc. Dans toutes ces catégories qu'on a désignées, il y a plein de sous-catégories et c'est important. Pour moi, le plus important pour les enfants, vraiment ce qui ressort dans leur courrier, on a un courrier énorme sur les rapports avec les copains, et mes copines, elles m'ont fait ça, et mes copains, ils m'ont fait ça, et puis j'étais du groupe, etc. C'est là, est-ce que mon rapport aux autres, il est assuré, il est sécurisant. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être populaire au sens avoir 15 000 personnes autour de soi, avoir deux copines, deux bons copains et la vie est belle. Donc c'est pas que on n'est pas que sur une échelle comme ça d'hyper popularité. L'hyper populaire peut être dans une précarité intérieure très forte, puisque s'il n'arrive pas à conserver son groupe autour de lui, c'est super angoissant pour lui. Donc ce qui est très important pour l'enfant, c'est la sécurité intérieure dans son rapport aux autres. On peut avoir deux super copains et la vie est vraiment chouette. Et inversement, par contre, c'est vrai, on peut être un enfant isolé, choisi. C'est pas du tout la même chose que isolé, pas choisi. Isolé, choisi, qui a envie de lire Harry Potter dans la cour parce que c'est son kiff, et ben il est content aussi. Donc faut bien regarder ce qui est choisi, pas choisi, et surtout ce qui est sécurisant pour l'enfant.
Bonjour Benjamin.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. D'où appelez-vous ?
Alors j'appelle de Langres, en Haute-Marne.
Alors petite réflexion sur notre thème du jour.
Oui, alors c'était au départ par rapport à la responsabilisation des enfants. Mmh. Oui, parce qu'en fait, on parle qu'on responsabilise beaucoup les enfants, alors qu'à l'époque, quoi je dis à l'époque, du temps de mes parents qui étaient enfants, je suis issu de grande famille et les aînés s'occupaient déjà des petits, puisque en Haute-Marne c'est relativement très rural, et les enfants étaient très responsabilisés au démarrage. Puisqu'en même temps, il fallait participer aux travaux de la maison, c'était des fermes, ou beaucoup de fermes ici. Et quand il fallait aller au foin, quand il fallait aller au jardin, aller au bois, etc., les enfants étaient mis à contribution. Et ils s'en portaient pas plus mal. C'est nos parents, et moi, ils m'ont bien éduqué. Et justement, en mettant ça en place, mais en nous laissant aussi notre vie d'enfant. Si on voulait aller sortir, on pouvait faire notre vie avec nos copains, etc. Et je trouve que maintenant les enfants ne participent plus aux tâches déjà de la maison.
Vous le regrettez ?
Contre salaire, on peut négocier.
Un peu, ouais. Ouais, contre un salaire. Mais en fait, ce que je regarde, c'est que c'est beaucoup dans ces tâches-là. Moi, c'est vrai, j'ai beaucoup discuté avec mes parents quand on était dans l'effort ensemble. C'est pas forcément un effort que de faire c'est un peu un effort de faire le ménage à la maison, mais au moins on est ensemble et ça n'empêchait pas non plus à côté de faire des jeux ensemble, de travailler, de jouer avec les parents. On échangeait encore là, mais différemment.
Gonelle Boulay d'Astrapi.
Oui, ce qui est très juste, c'est que, alors, la question du travail ensemble, je pense que ça dépend pas mal des familles. En revanche, ce qui est très très vrai, c'est la question, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment la réduction de ce périmètre d'exploration, de déplacement. Il y a une étude américaine là qui avait été faite, où vous avez pris 3 générations et en montrant le périmètre autour duquel un enfant pouvait circuler seul. Et c'était complètement fou. Aujourd'hui, on en est, je crois, à 45 mètres ou 50 mètres. C'est dingue. Pour plein de raisons, parce qu'on entend plus parler des problèmes, alors qu'il y en a beaucoup moins qu'avant, de ce qui pourrait se passer dans la rue, de ce qui pourrait. Et ça, c'est vrai que les enfants souffrent beaucoup de ça. Ils sont très, très demandeurs en primaire, là, vers 8 ans, 9 ans. Vous allez voir, si vous tendez l'oreille, que les questions qui viennent, c'est quand est-ce que je peux aller chercher le pain tout seul? Quand est-ce que je peux aller à l'école tout seul, à la musique tout seul, au parc tout seul? Et ils souffrent beaucoup de ça. Et c'est pour ça qu'on les retrouve beaucoup dans les jeux vidéo, ces domaines d'exploration. Pourquoi les enfants aiment autant être dans des jeux vidéo qui leur permettent d'aller dans plein de domaines, d'explorer, paf, ils tournent la manette, oh, y a une montagne qui apparaît, ils vont pouvoir prendre des dangers, entre guillemets. Ça répond à cette demande-là.
Merci beaucoup, Benjamin, de nous avoir appelé. Bonjour Adèle.
Bonjour.
Bienvenue. Tu as 10 ans et déjà auditrice de France Inter. Comment vas-tu?
Très bien.
Alors, il paraît que tu es une jeune fille plutôt libre. Comment ça se traduit dans ta vie de famille, dans ta vie de tous les jours, dans tes rapports avec tes parents?
Ben, mes parents sont séparés. La plupart du temps, je suis avec ma maman. Mmh. Et en général, ça se passe bien, mais parfois, on se prend la tête pour des petites bricoles.
C'est quoi les bricoles?
Bah, par exemple, j'aime pas ce qu'elle m'a fait à manger. Mmh. Donc, du coup, je me mets en colère. Et j'aime bien avoir le dernier mot. Donc, du coup, c'est...
Alors, tu aimes bien avoir le dernier mot, mais est-ce que ça négocie beaucoup dans la famille? Est-ce que tu aspires à un rapport d'égalité à la maison?
Oui, je trouve. Mmh. Bon, après, c'est compliqué à expliquer.
Il y a Marc Bouger qui a envie de te poser une question.
Non, mais j'ai l'impression que tout va bien. Je m'inquiète pour son avenir. Si à 10 ans, t'écoutes France Inter, qu'est-ce que tu feras à 30 ans? Qu'est-ce que t'écoutes?
Radio pour moi.
Adèle, parfois, tu parles mal à ta maman, c'est ça? Mais c'est pourquoi? Pour quelle raison?
Bah, je sais pas, je m'hésite en colère. Je suis assez susceptible.
Est-ce que t'as envie de...
Et je l'avoue.
T'as envie d'imposer des choses à la maison, c'est ça? Tu...
Oh, pas exactement. Enfin, j'aime bien. J'ai une grande fierté, donc j'ai du mal à m'excuser des choses comme ça.
Bon, bienvenue au club. Adèle, quel est ton rapport avec les écrans? Est-ce que tu es... parce qu'on caricature souvent les enfants des années 2010, ah, ils sont sur leur smartphone, sur leur tablette. Est-ce que c'est ton cas?
Bah non, moi je préfère lire, mais ça me détend de regarder la télé de temps en temps, mais... De temps en temps, hein. J'aime bien envoyer des messages à mes amis, les appeler, mais je joue pas beaucoup aux jeux vidéo.
Gonelle Boulet.
Sur les écrans?
Non, sur ce que vient de nous dire Adèle.
Oui, elle a raison, elle aime se détendre devant la télé. J'allais dire, moi je suis très partagée parfois sur ces histoires d'écran. Alors en tant que mère, je suis chiante avec les enfants. Les ados, on supporte pas qu'ils soient collés à leur écran. C'est vrai que c'est assez insupportable parfois. On régule. Mais c'est vrai que parfois je me dis tiens, on discute avec des copains qui sont devenus des grands BDistes, des super illustrateurs, des gens super créatifs et qui disent mais moi je passais mon mercredi entier devant Récréa 2 à regarder Goldorak, tous ces nouveaux dessins animés. À l'époque, on disait ces dessins animés japonais, c'est terrifiant pour la jeunesse. Et je vois des gens qui s'en sont aussi super bien sortis. Alors on fait super attention, on sait que une exposition précoce, très devant les écrans, c'est terrible. Mais c'est vrai que des fois je me dit, il y a aussi des sources de créativité et d'imaginaire qui sont assez formidables. Il faut que ce soit dosé, quoi.
Merci beaucoup, Adèle, de nous avoir appelé. À bientôt, Adèle.
De rien. À bientôt.
On n'a pas le temps, mais Gonelle Boulet, les enfants des années 2010 sont très sensibles à l'environnement. Hein, c'est la une de votre dernier bimensuel, Sauvons les océans.
Oui, le dernier numéro qui va sortir dans quelques jours, qui est sur la grande expédition Tara, qui s'occupe du corail. Et voilà, et c'est une tranche d'âge qui est preneuse et de tout comprendre sur le monde.
Merci beaucoup, Marc Baugé, rédacteur en chef de Doolittle, le hors-série de Society destinée aux parents. Merci, Martine Cour. Je recommande vraiment très, très vivement Sociologie des enfants à la découverte. Merci également, Gonelle Boulet, rédactrice en chef d'Astrapi. Allez, il est temps déjà de retrouver Pas son genre de Julia Foyce.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
C'est un garçon ou c'est une fille?
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon?
T'as menti?
Bah oui. Mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et j'ai un câble droit de fille, voilà.
Julia Foyce, tous les mercredis, vous interrogez les questions de genre dans un genre bien à vous. Alors hier, je vous ai envoyé un SMS. Pour le clitoris, je dis yes.
Voilà.
Hors contexte, ce texto pourrait marquer une ambiguïté très gênante entre nous.
C'est ça, alors que pas du tout. Pas du tout, la question n'est pas là, Ali. La question, c'est est-ce que vous avez des neveux?
Oui.
Bien, deux. Alors pour ceux qui n'en auraient pas encore, sachez que le neveu est à la maternité, ce que Claire Fontaine est aux joueurs de l'équipe de France. Un magnifique terrain d'entraînement avec fermeture des portes à heure fixe et gazon boueux partant de pluie. La pluie tombant, si je file la métaphore, à intervalles réguliers ou disons à chaque étape clé de la croissance du dit neveu. Lorsque le premier de ces trois lascars que sont les miens fut en âge de faire des phrases complètes, il vient me trouver et me dit tout fier, moi je suis un garçon parce que j'ai un zizi et toi t'es une fille parce que t'as rien. Hein? Comment ça j'ai rien moi? Ah ben non, j'ai pas rien, j'ai quoi moi? Je lui dis quoi moi au neveu? J'avoue, sur le moment, je bug. Bah oui, parce que autant zizi, bon, c'est simple, hein, c'est rapide, c'est communément admis et c'est tout petit. Enfin, je veux dire, ça tient en deux syllabes. Autant pour les filles, oui, j'hésite. Je parle de quoi d'abord? De ce qu'on a dedans, de ce qu'on a dehors, de cette richesse incroyable du sexe féminin qui fait qu'on a du dedans et du dehors. Mais surtout, je le nomme comment ce dehors qui est aussi dedans? Je dis vulve. Yerk. Je dis vagin, un peu graphique, non, pour un enfant de 4 ans. Alors je dis merci Alain Rey.
Et pourquoi vous faites intervenir notre célèbre linguiste dans nos histoires de neveux de...
Alors déjà, Ali, le neveu, il avait le temps de filer, hilar et encore plus convaincu qu'on n'avait rien dans la culotte, nous les filles, puisque
on ne trouvait même pas les mots, moi, sa tante, pour en parler. Et qu'Alain Rey, en revanche, je l'ai trouvé dans les pages du magazine Cosette, auquel il accordait une interview il y a quelque temps sur le sujet. Et il dit quoi ? Que d'abord, la langue française est si riche en la matière qu'on a écrit des éloges entiers sur le con. Oui, car ça n'a pas toujours été péjoratif. Des mots pour désigner la chose, il y en a même eu de très jolis. On a eu berlingot, on a eu abricot, on a eu frifri aussi. Et je vous jure que voir Alain Rey dire frifri, ben ça vaut le détour. Enfin bref, on a le choix, mais on ne le prend pas. Les noms les plus fréquemment utilisés, minette, zézette, nénette, des diminutifs toujours, note le sagace linguiste qui conclut. Bizarrement, le diminutif est positif en français, mais on peut toujours soupçonner qu'il diminue la femme. Alors oui, Alain, on peut le soupçonner, je te confirme. Heureusement, les temps changent, Ali, les années passent, mon neveu grandit, et donc merci l'école où il pourra enfin trouver réponse à toutes ces questions qui laissent sa tante sans voix, et sa mère n'en parle même pas.
Donc les manuels scolaires font enfin leur boulot.
Oui. Oui, enfin, il est tout seul en fait. Hein. Pour les élèves de 4e qui ont fait leur rentrée cette semaine et qui se retrouvent avec un manuel scolaire édité chez Magnard, bonne pioche, pour la toute première fois. Le sexe féminin y est correctement représenté et au complet, s'il vous plaît. Parce que jusque-là, dans les manuels, comment dire, l'utérus, c'était ok, les ovaires, idem. Le vagin, oui, allez, on l'a aussi, mais oh, c'est bizarre, il est où le clitoris ? Eh ben, il est pas là. Et quand il est là, eh ben il est pas nommé. Et quand il est nommé, eh ben il est pas raccordé. Non, non, il est tout petit, il tient tout seul et il n'a strictement rien à voir, évidemment, sur ses planches anatomiques avec le reste de l'appareil génital. Alors, admettons que l'éducation nationale ait ses lenteurs intrinsèques, presque autant que la communauté scientifique qui a attendu les années 2000 pour représenter correctement le clitoris. Mais, résultat des courses, d'après le Haut Conseil à l'égalité entre femmes et hommes, une ado sur 4 aujourd'hui ne sait pas qu'elle a un clitoris. 8 sur 10 ne savent pas à quoi il peut bien servir. Quant aux garçons, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont 2 sur 3 à ne pas en avoir la moindre idée. En même temps, c'est vrai qu'à côté des saintes fonctions reproductives de l'utérus, ça ne sert à rien. T'as raison, neveu, c'est du plaisir à l'état pur. Autant dire, non, non, rien.
Passons genre tous les mercredis avec Julia Foyce, que l'on retrouve également samedi à 20h dans Babel sur scène. Demain, on s'intéresse aux désillusions de la vie étudiante. Racontez-nous le décalage entre vos rêves étudiants et la réalité faite de budget rikiki, de petits boulots Deliveroo et de cours décevants dans des facs bondés où vous suivez un cursus que vous n'avez pas forcément choisi. Système APB oblige, ou alors racontez-nous votre épanouissement dans l'enseignement supérieur. Grand bien vous fasse à radiofrance.com. 01 45 24 7000 demain dès 9h, sans oublier notre page Facebook. Ce matin, la technique, Clément Vuillet et Maxime Andran.